Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL quasiment 18h40. On va donc défaire le monde maintenant avec Cyprien Signy, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin, le carré magique, l'info avec un autre regard aiguisé, inattendu, jusqu'à 19h. Pouvons-nous bénéficier du menu, Cyprien ?
Absolument. Ce soir dans Défait le Monde, c'est la guerre des étoiles. Quand la réalité dépasse la fiction, on vous présente l'arme de demain, le missile hypersonique. Je vous préviens, ça décoiffe. On vous parlera aussi des origines du Parc des Princes, de la première Miss France un poil trop petite et d'une belle brochette de justification complètement ratée. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
La guerre des étoiles avec l'essai chinois d'un missile dit hypersonique. Alors il aurait eu lieu en août, hein, on l'a appris que ce week-end. Et forcément, depuis, avec l'équipe dont défait le monde, on est intrigué par ce nouveau type de missile.
On a donc voulu savoir ce qu'est un missile hypersonique, quelle est sa particularité et comment ça marche.
Et pour répondre à ces questions, on a appelé Xavier Pascaud. Il dirige la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions spatiales. Et d'abord, un missile hypersonique, ça va vite, très vite.
C'est un missile qui est propulsé dans l'atmosphère à des vitesses très très élevées. Là, on est bien au-delà d'une vitesse classique d'avion, en fait, puisque on parle de vitesses qui peuvent aller jusqu'à Mach 10, Mach 11. On est à 10 ou 11 fois la vitesse du son, en fait. Voilà.
10 fois la vitesse du son, pour info, ça fait grosso modo du 12 000 km/h.
Ah oui.
Autant vous dire qu'il arrive vite, le missile.
Et il n'y a pas que la vitesse qui le caractérise, cet hypersonique.
Et non, en plus d'aller super vite, il est très habile.
La particularité des missiles hypersoniques, c'est qu'ils peuvent, a priori, changer de trajectoire parce que sont propulsés. Ça s'apparente à un vol d'avion. Ce sont des missiles à très longue portée, qui évoluent très très vite et qui sont effectivement téléguidés sur leur cible et qui ont aussi pour objectif, en fait, d'éviter les défenses. Vous savez qu'il y a des systèmes de défense qui tirent des contre-missiles, si vous voulez. Là, ça devient beaucoup plus compliqué pour l'adversaire d'intercepter ces cibles à haute vitesse qui, en même temps, sont capables de manœuvrer et donc, en fait, au dernier moment, finalement, de changer de trajectoire, ce qui met le système de défense dans la difficulté. Quoi.
Et ça fonctionne comment, le missile hypersonique ? On le teste comment ?
Eh bien là, il faut un peu lever les yeux au ciel, parce qu'en fait, ce sont des fusées. Écoutez bien.
On utilise en fait souvent une base spatiale. La Chine, qui a des compétences de lancement spatial, va utiliser une partie de lanceur spatial sur laquelle elle va installer un corps planant. Elle va propulser tout cela assez haut et va larguer ce corps à des vitesses très élevées au-dessus de son territoire pour le faire réatterrir sur une piste. Donc ça, ce sont des essais qui ont été faits. Alors ça se passe dans l'espace ou en très très haute altitude. Là, la particularité de ce dernier test, c'est qu'on sait, il semblerait, selon les informations, qu'une orbite complète dans l'espace, pour le coup, a été accomplie, ce qui est un peu nouveau. Et là, effectivement, c'est donc quelque chose qui serait dans l'espace et qui serait désorbité pour revenir sur Terre.
Donc en gros, là, le missile chinois, il aurait fait le tour de la Terre à 12 000 à l'heure dans l'espace et serait reposé tranquillement en Chine, sans qu'on sache.
C'est fou, ça.
Et pour être tout à fait complet, Xavier Pascaud nous a quand même précisé qu'il y avait une véritable guerre de communication autour de ces missiles. Il y a beaucoup d'opacité. C'est compliqué, donc, de savoir si l'essai chinois a été concluant. Ouais. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les États-Unis, la Russie et la Chine, donc les trois grandes puissances en pointe sur ce projet, se livrent une compétition féroce.
Tout ça au-dessus de nos têtes.
Voilà,
dormons tranquille.
RTL, sous les radars.
Tous les soirs, dans Défait le monde, une info qui est passée inaperçue. Celle-ci, c'est du concret, c'est votre quotidien.
Et celle-là, Laurent est allé la chercher assez loin, dans le PLFSS. Vous savez, c'est le fameux projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et elle nous concerne tous, puisque les consultations chez le kiné ou l'orthophoniste pourrait être bientôt remboursé sans ordonnance.
Oui, c'est la proposition faite par la commission des affaires sociales de l'Assemblée. Elle souhaite lancer une expérimentation dans 6 départements, on ne sait pas encore lesquels, pour une durée de 3 ans. Terminées alors les ordonnances, on pourra se rendre directement chez le kiné ou l'orthophoniste. Une règle toutefois s'impose. Stéphanie Rist, députée La République En Marche du Loiret, rhumatologue, est l'une des co-auteurs des amendements.
Et à la condition que ces kinés travaillent en soins coordonnés, soit dans des maisons de santé pluridisciplinaires, soit dans des coopérations professionnelles territoriales de santé. Il faut qu'ils soient en soins coordonnés parce que l'objet est de rester vraiment en lien avec le médecin traitant et avec les autres professionnels qui s'occupent du patient.
Les professionnels devront envoyer au médecin traitant un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés. Cette mesure, c'est aussi un levier pour répondre au problème de la désertification médicale. Environ un Français sur 10 n'a plus de médecin traitant.
suis sur un territoire où on manque beaucoup de médecins et chacun des médecins de mon territoire réclame d'avoir du temps libéré. C'est une façon de libérer du temps médical.
Et à certains qui peuvent craindre des abus avec une telle expérimentation, d'exploser les dépenses de la sécurité sociale, la députée Stéphanie Rist a une réponse.
Toutes les expériences étrangères montrent qu'il y a une économie de fait sur les dépenses de santé. Par exemple, quand vous avez une douleur dans le dos et que vous attendez 3 mois pour aller voir le rhumatologue ou 6 mois, vous allez prendre des médicaments, alors que le kiné aurait pu vous soulager plus vite.
Les amendements vont être présentés aux députés cette semaine avant d'aller ensuite au Sénat.
Eh bien, on suivra le dossier. Merci Laurent. Une petite pause. On continue de défaire le monde ensuite dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. Tiens, on va attaquer l'échauffement du match de ce soir. PSG Leipzig.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h48, on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner.
Et la première dans 2 heures, c'est le PSG qui affronte Leipzig en Ligue des Champions au Parc des Princes. Ah, vous dites comment vous ?
Leipzig.
Arthur est totalement.
En Allemagne, on dit Leipzig.
Ouais, mais comment on dit germanophone ? Non ?
Oui, germanophone.
À Marseille, voilà. On dit Leipzig. Donc.
Leipzig.
Derrière, Arthur, ça vient d'où le nom de Parc des Princes, là où va se jouer le match ce soir ?
Eh bien, écoutez, s'il s'appelle comme ça, Cyprien, c'est grâce à Louis XIV. Eh oui, ah. Parce que pendant son règne, il a fait d'une partie du bois de Boulogne actuel la réserve du gibier du Fonds des Princes. C'était un lieu de chasse très prisé par le grand dauphin et ses fils. Plus tard, sous le Second Empire, on y a construit un quartier résidentiel appelé Parc des Princes, en référence à l'ancienne réserve royale. Et en 1897, juste à côté de ce lotissement, le stade Vélodrome du Parc des Princes est inauguré.
Ouais. Voilà. Et on a bien fait d'enlever le début. Hein.
Voilà. Et donc le parc qu'on connaît aujourd'hui, c'est le troisième du nom.
Le Parc des Princes, ça date de Louis XIV. C'est incroyable cette histoire.
Oui.
Voilà, c'est une bonne info pour briller au dîner ce soir, devant le match de foot, entre la pizza et la canette de soda. Merci beaucoup. Je vous vois venir, Cyprien. Non. Je sais, vous ne buvez pas que du soda.
À consommer avec modération.
Évidemment. Oui, merci beaucoup, Arthur.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Allez, chaque soir, Céline Landreau, de loin la moins dissipée dans ce studio, désigne le winner ou le loser du jour.
Avec ce soir, un festival de losers, de grands perdants. Oui, parfois, il vaut mieux muscler son argumentaire avant de commencer à parler. Hein.
Ouais, je voulais revenir sur l'interview que Philippe Chevalier du duo Chevalier et Las Palès a donnée à Téléstar Play. Alors, il explique qu'il s'apprête à voter pour Marine Le Pen. Évidemment, chacun est complètement libre de son vote. Ce qui nous a fait tiquer, c'est cette phrase.
Vous savez, moi, ma femme est sénégalaise. Donc là-dessus, j'ai pas de leçon à recevoir.
Et là, comment dire, on a eu le sentiment d'avoir déjà entendu quelque chose qui ressemblait à ça.
Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe.
Ça, c'est Nadine Morano, hein, c'est ça ?
C'est ça, Nadine Morano, l'ami noir ou arabe brandi en étendard pour balayer tout soupçon de racisme. Ça marche d'ailleurs aussi avec l'homophobie, ici, Christine Boutin.
J'ai des amis homosexuels, j'ai des homosexuels qui viennent passer leur vacances chez moi, enfin je veux dire vraiment...
Ah oui, vraiment. Et même avec l'antisémitisme, ici, Gilbert Collard.
Voilà, moi regardez, je suis entouré d'amis qui sont juifs. Hein.
Et alors, faute d'amis, vous pouvez toujours vous trouver un webmaster comme Jean-Marie Le Pen.
Le journal Minute me reproche aujourd'hui que mon webmaster de Nice soit un juif. Bon, je ne suis pas raciste.
Et alors, quand l'appel à un ami ou à un webmaster ne suffit plus, il reste évidemment la carte gastronomique.
Rien de plus simple, il suffit d'avoir un bon couscous.
Mais oui, le couscous, l'arme fatale contre toute accusation de xénophobie. Et là, forcément, on se régale. Couscous brochette avec, par ordre d'apparition, Éric Zemmour, Florian Philippot et encore Nadine Morano.
Je viens de l'autre côté de la Méditerranée. Ma mère faisait le meilleur couscous du monde.
Et qu'on leur fasse goûter du couscous, ils verront que c'est très bon. Ça m'empêchera pas de continuer à manger du couscous.
J'adore le couscous et les briques à l'œuf, vous voyez.
Excellente musique encore, très bien choisie par l'équipe dont défait le monde. On va finir par sortir
la playlist, on est en train de l'éviter là.
Avec la bande originale de l'émission. Merci beaucoup Céline. Une petite pause, dans un instant une nouvelle info pour briller tout à l'heure au couscous. Miss France s'invite au dîner.
Julien Cellier, Cyprien Signy ont défait le monde. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, 18h54 minutes et de deux, voici votre seconde info pour briller tout à l'heure au dîner.
Avec la polémique du jour, l'association Oser le féminisme attaque au prud'homme le concours Miss France car elle estime que les critères de sélection des candidates sont sexistes et enfreignent le droit du travail. Et Céline, eh ben c'est un de ces critères qui a retenu votre attention ce soir.
Oui, parce que s'il avait déjà été en vigueur aux origines du concours, eh bien la première Miss France, que l'on appelait à l'époque la plus belle femme de France, Agnès Souret, sacrée en 1920, n'aurait pas pu décrocher son titre. En effet, cette jeune femme de 17 ans au moment du sacre, originaire de Bayonne, ne mesurait qu'un mètre 68, 2 cm de moins donc que la limite actuelle pour pouvoir s'inscrire au concours de beauté. Et sachez qu'à l'époque, la plus belle femme de France était élue par des spectateurs de cinéma.
Ah bon ?
Plusieurs manches avaient lieu où les photos et en fait des jeunes femmes étaient projetées sur l'écran et les spectateurs votaient pour la candidate de leur choix.
C'est mignon. Ah ouais, il y avait une info dans l'info pour briller.
Toujours.
Une deuxième info. J'aime beaucoup le coup des cinémas. Allez, je vote pour Céline ce soir.
Ah, merci. Merci Damien à la réalisation.
Céline, un peu plus franche à nous.
Ou rêve.
Miss Vendée, même marche ou rêve. Tous les soirs, on vous appelle et vous nous redonnez foi en l'humanité.
Oui, vous avez certainement aimé le film L'Auberge espagnole. Eh bien, Laurent, vous ne nous proposez pas une coloc où l'on parle toutes les langues, non, mais une coloc pour éviter les pads. C'est
oui,
génial.
Je vous emmène à Évron, en Mayenne, pour rencontrer Pierre. Alors qu'un demi-million de personnes âgées sont en situation de mort sociale dans notre pays, qu'elles ne rencontrent quasiment jamais personne, eh bien, Pierre, pompier et sa femme Emmanuelle, aide-soignante, ont trouvé une solution. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir.
Vous avez acheté une maison pour accueillir 5 seniors autonomes en colocation. C'est un projet de longue date.
Ça fait au moins un an qu'on travaille dessus, effectivement. On avait eu la possibilité d'avoir une belle habitation sur Évron qui était PMR, qui accueillait auparavant une famille d'accueil pour personnes âgées, donc des gens remarquables qui avaient déjà travaillé dessus. Et donc du coup, on a sauté sur l'opportunité de pouvoir acquérir cette maison et pouvoir créer cette colocation.
Alors décrivez-nous cette maison. Tout est prêt pour accueillir les colocataires ?
Tout à fait, tout est prêt, les meubles sont en place, c'est une location meublée. Donc les résidents n'auront pas besoin de venir avec des meubles, ou s'ils le souhaitent, venir avec les leurs, s'ils ont vraiment besoin, par exemple, d'un lit particulier pour leur dos ou autre. Mais tout est installé, ils ont juste à venir avec leurs vêtements et puis profiter de l'habitation.
Et d'un point de vue légal, il y a des choses à faire d'un point de vue règles sanitaires, etc.
Alors cette maison, en fait, est une colocation au même titre qu'une colocation étudiante. Donc il n'y a pas de service à proprement parler à l'intérieur. Par contre, c'est l'habitation qui est faite pour eux. Mais d'un point de vue légal, en fait, c'est une colocation comme n'importe qui. Donc les résidents sont chez eux, ils vivent en toute liberté. C'est simplement pour les réunir. Ils n'ont pas d'obligation, ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent. C'est pas du tout un EHPAD ou une structure spécialisée. Ils vivent chez eux, ils sont chez eux et ils profitent.
Il n'y a rien de médicalisé, c'est simplement pour rompre l'isolement. C'est au lieu d'être tout seul chez vous, venez vivre à plusieurs avec nous. C'est ça le projet.
Alors bien évidemment, il y a ce côté rompre l'isolement, c'est le côté le plus important, c'est l'objectif du projet. Mais la maison est en plus PMR, ce qui fait qu'elle a la possibilité de faire un maintien au domicile le plus longtemps. Les douches sont PMR, les accès sont PMR, ce qui fait qu'une personne même vieillissante pourra vivre dans la maison, continuer à profiter de son logement en toute liberté.
Pierre, moi j'adore parler d'argent. Quel est le coût de la colocation ?
Donc on met nos chambres sont à 500 euros. Tout compris, c'est-à-dire qu'on prend en charge l'eau, l'électricité, le gaz, la totalité des fluides au niveau de la maison, même au niveau de l'entretien. Ils ont juste à régler la chambre et puis ils ont la possibilité de jouir du bien.
Et vous avez déjà des candidats ?
Oui, on a déjà des personnes qui sont intéressées. On a déjà une demande ferme. Il y en a plusieurs personnes qui sont en cours de réflexion à ce niveau-là. On va organiser une petite rencontre, une sorte de café gourmand pour que chacun puisse se rencontrer et voir comment ça peut fonctionner ensemble et s'ils sont tous décidés à pouvoir vivre les uns avec les autres.
C'est génial. Et ils ont quel âge les demandes que vous avez à peu près, les futurs colocataires ?
Alors pour l'instant, la personne la plus jeune que nous ayons eue a 63 ans. Et on a eu des demandes jusqu'à plus de 80 ans.
Une colocation pour 5 seniors autonomes, c'est votre projet avec votre compagne Emmanuelle à Évron en Mayenne. Merci Pierre.
Merci, merci.
Merci Pierre, super projet. Et si comme Pierre, vous avez envie de nous raconter vos parcours de vie, vos initiatives, vos projets, vous n'hésitez pas, on vous attend.
Laurent attend tous vos messages, vous pouvez le contacter sur la page Facebook ou le compte Twitter. Dont défait le monde, Yann, plus simple.
Et à n'importe quelle heure.
Et très bien. Du jour et de la nuit. Ouais. Même le samedi et le dimanche.
Oui, voilà, surtout le samedi et le dimanche.
Voilà, on vous attend, les amis. Et vous, les amis, dont défait le monde, on vous retrouve demain, 18h40, dans RTL Soir.
À demain.
À demain.